France Maghreb 2.
Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 16 octobre à la une ce lundi, le personnage de l'université de Cergy a reçu par mail un formulaire à remplir pour dénoncer des prétendus signes de radicalisation. Selon vous, ces appels à la dénonciation menacent-ils l'ensemble des musulmans? C'est la question que l'on se pose, que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook. France Maghreb 2 sur Twitter, le grand forum FM2 pour en parler avec nous. Faïza Ben Mohamed, Mounia Feriachi, Abdeslamitash, Philippe Bouriaki et Maître Maghrebi. Invité Ismaël du Front Uni des Immigrations et Quartiers Populaires qui organise une marche décoloniale à samedi. Qu'est-ce que cette marche décoloniale? Eh bien, nous en saurons davantage aux alentours de 17h. Le zapping, les infos zappées et le quiz en fin d'émission et ce face-à-face attendu entre Bouriaki et Itash.
Le Grand Forum, Christophe Fro, 16h-18h, sur France Maghreb 2.
Ah, on est bien, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF. Jusque 18h, on est là, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Une belle équipe pour m'accompagner, en commençant par Faïza Ben Mohamed, journaliste. Bonjour Faïza.
Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, auditrices.
Elle ne pourra pas rester avec nous jusqu'au bout, mais elle est avec nous en tout cas, journaliste militante Faïza Ben Mohamed. Mounia Feriachi, bonjour, blogueuse, bonjour Mounia.
Bonjour.
Bienvenue Mounia, ravi de te retrouver. Philippe Bouriaki, comment ça va mon Philippe?
Ah, pas très bien, pas très
Qu'est-ce
bien.
Qu'est-ce qui se passe?
À la veille du 17 octobre, je suis jamais super bien.
Ouais. Tu nous en parleras d'ailleurs, parce qu'il se passe quelque chose du côté d'Orly, parce qu'il se passe toujours quelque chose à Orly.
C'est vrai.
Ouais. Monsieur Abdeslam Itash, le premier de la classe, salut Abdeslam.
À ce qui paraît, bonjour aux auditeurs, auditrices, bonjour tout le monde.
Je suis content parce que le quiz, aujourd'hui, va être important.
Ouais,
ça va
ouais.
Être du tout. Ces deux-là se chauffent, hein. Faïza aussi peut le voir, hein.
Ah non, il n'y a que lui qui se chauffe, hein. Moi, tu sais, je ne chasse pas le petit gibier, hein. Je t'en
dis. Oh, chante Bomer, chante. Tu sais qu'est-ce qu'il disait, mon prof de boxe? L'oiseau qui chante le matin se fait plumer avant le soir.
Ouais, d'accord.
Voilà, ça commence bien, mais on verra. On réglera ça à la loyale tout à l'heure, hein, sur l'octogone, qui vous mettra en face à face tout à l'heure. Bienvenue tout le monde. Alors, pour commencer, cette question du jour que l'on vous pose, c'était ce lundi. Le personnel de l'université de Cergy a reçu par mail un formulaire à remplir pour dénoncer des prétendus signes de radicalisation. Selon vous, ces appels à la dénonciation menacent-ils l'ensemble des musulmans? Extrait pour illustrer un petit peu ce qui s'est passé du côté de Pontoise.
C'est un document destiné aux employés de l'université de Cergy-Pontoise. Deux pages de critères pour repérer des étudiants ou collègues radicalisés. Exemple, l'absence répétée pour la prière du vendredi, le port de la djellaba, mais aussi un intérêt soudain et marqué pour l'actualité. Comme les 1800 autres employés et professeurs de l'établissement, Elisabeth Auclair a reçu le document hier. Elle en est stupéfaite.
Les risques de radicalisation, ça existe, il faut être lucide. Et en même temps, on va pas commencer à faire des fiches sur les étudiants qui portent des voiles ou qui se font pousser là-bas.
Ficher les étudiants au prétexte de la lutte antiterroriste, l'initiative sème l'émoi jusque sur les murs du campus. Autour des amphis, l'opposition aujourd'hui semble généralisée.
Je trouve que c'est pas normal de ficher des élèves en fonction de leur apparence, en fonction de leur culture.
Et heureusement, l'université a fait un petit peu marche arrière pour le coup, mais le mal est fait, j'ai envie de dire, Faïza Ben Mohamed. Faïza?
Oui.
Oui, je te disais donc effectivement
ça a coupé, en fait,
oui, l'université est revenue un petit peu, a fait marche arrière, mais j'ai envie de dire le mal est fait.
Bah, le mal est fait, mais surtout il faut bien noter quelque chose. Ils font pas marche arrière parce qu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils font marche arrière parce qu'il y a eu un tollé médiatique et politique qui a été provoqué par le fait que ce questionnaire soit rendu public. En aucun cas ils l'auraient retiré par eux-mêmes. Hein. Il faut pas non plus trop se leurrer sur les intentions de l'université. Il n'empêche que ce questionnaire, il a bien été élaboré par quelqu'un. Je peux pas croire que la direction n'ait pas été au courant. Je peux pas croire que même ils y soient pas à l'initiative. Donc il faut là aujourd'hui c'est rendu public sur l'université de Cergy-Pontoise. On n'est pas à l'abri que ce soit quelque chose qui prolifère dans d'autres établissements scolaires et que de toute manière c'est quelque chose qui reste qui est ancré dans la mentalité. Finalement, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont cru bon de ils se sont cru dans leur bon droit de le faire.
Mounia, là-dessus, ouais, sur ce fichage, hein, on peut parler d'un fichage.
Ouais, c'est du fichage, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est parce que c'est super grave en fait d'en arriver là. C'est super grave de le mettre par écrit parce que pour avoir été dans l'éducation nationale, je sais qu'il y a certains il y a certains comportements de surveillance exagérés qui existent. Et c'est déjà pas c'est déjà assez effrayant et là en fait le fait que ça soit mis sur papier et que ça a été rendu public, mais pour le coup je pense que c'est une bonne chose que ça a été rendu public parce que comme l'a précisé Faïza, si ça avait pas été rendu public, il n'aurait jamais rétro-pédalé.
Ouais.
Donc c'est bien en fait que maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les réseaux sociaux et internet, mais en fait
ça sert
pour ce genre de choses.
Ouais.
Et du coup on peut plus faire n'importe quoi avec ça, on peut plus faire ce qu'on veut sans que tout le monde le sache.
En tout cas beaucoup de commentaires sur la question du jour, vous pouvez y répondre sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Tiens par exemple Jérôme qui nous dit ça devient n'importe quoi au point où ça va être comme en 40. Nous dit Jérôme, mais au lieu de l'étoile jaune, ce sera un croissant jaune, Philippe Bouriaki.
Ou un croissant rouge.
Ouais.
Hein, pourquoi pas. Bah, j'ai envie de te dire, ça y est, c'est le racisme décomplexé. Tranquille, c'est normal. T'as qu'à allumer les chaînes d'infos. Quoi qu'il arrive, tous les jours, en boucle, sur toutes les chaînes, on nous parle ou du hijab, ou du voile, ou d'un ancien procès qui n'a pas encore eu lieu, ou de gens qui étaient proches de la France et que la France avec les États-Unis l'ont laissé abandonner. Je parle des Kurdes et puis d'un seul coup, tu as 800 personnes qui sont libérées. Enfin, on entretient constamment, tous les jours, cette peur, cette crainte, et on est en train de faire le lit tranquillement, parce que là Marine Le Pen elle rigole hein. Et, si tu veux, hier elle a rien commenté, elle a été soutenir les pompiers, c'est juste énorme ce qu'on est en train de faire. Et quand t'as des Zignèbes ou Zora habitants qui montent au créneau et qu'on montre
oui Fréard qui dit détester les musulmans,
normal, oui
ouais, normal,
ouais, ouais,
dans
ouais,
le plus grand descend des calmes, c'est vrai hein. Parce qu'on parle de Zemmour, mais il faut qu'on parle de cet individu qui est quand même clair, directeur adjoint de la rédaction du Figaro hein.
Bien sûr.
Mais franchement nous on dit pas qu'on déteste les crânes de faim à la télé hein. On pourrait très bien le dire.
Non, dis pas, non.
Voilà, mais non, mais je sais pas, j'ai envie de dire, moi j'aime pas, moi je déteste ta sale tête, mais je vais pas le dire, ça sert à
non,
rien.
Non, voilà. On dit pas non plus. Voilà. On s'attaque pas au physique, évidemment.
C'est ça.
Là, il y aura de quoi faire, y compris dans l'équipe du LGF. Hein.
Non, mais tu.
Voilà.
Tu parles de qui en question?
Non, pas j'ai cité personne.
Ah ouais. C'est pas gentil pour Abdeslam, hein,
monsieur. Mohamed nous dit
je suis
sur Facebook.
Silencieux, c'est pas bien.
Abdeslam. Mohamed nous dit sur Facebook, je suis d'accord pour une manifestation, mais qu'elle soit nationale, pas seulement à Paris, pour le boycott commercial. Il y a plus de chances que ça marche, ça pourrait faire mal, nous dit Mohamed sur Facebook.
Ouais.
Bah, t'es au courant de ce que Nadir a essayé de faire?
De qui?
Nadir Kaya.
Oui.
Bah écoute, y a un appel pour le 26 de mémoire. C'est en train de se mettre en place, ça avance, ça bouge. J'ai envie de dire, à la limite, c'est une bonne chose ce qui se passe. Je te promets. Moi, sérieusement, moi, je vois du bon côté, parce que ça va réellement dessiner le futur, et puis il y aura un vrai marqueur. Soit on continue d'accepter et de subir, et à ce moment-là, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Soit on se rebelle, mais de manière pacifique, et on dit stop, ça suffit, parce qu'on n'entend personne. Alors, effectivement, on n'a pas accès, hormis sur France Maghreb 2, de façon libre à la parole, mais je vois bien dans...
Pour l'instant.
Oui, pour l'instant. Oui, oui, oui. Oui. Non, mais bien sûr, la brigade policière fasciste va arriver un certain sous peu. Et d'ailleurs, je crois dans les tablettes des raflés, vous serez les premiers à la France Maghreb 2. C'est parce que c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est ça. Donc maintenant, ça suffit. Et il faut qu'on descende de manière assez claire dans la rue, qu'on nous entende. Et pour ça, je le dis, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais tant que vous serez pas inscrit sur le électoral, vous n'existez pas pour les politiques. Et tu vois bien ce qu'est en train de faire Castaner et Macron, ils laissent faire. Quand tu parles de leader islamique, je suis désolé, ce mot-là est galvaudé. Islamique ou islamiste ne veut pas dire terroriste. Ça suffit maintenant.
Oui.
Il faut trouver un autre mot pour ça. Ils n'ont plus le droit de l'utiliser. Ça suffit. Moi, je me sens blessé. Stop, qu'on arrête.
Écoute, tout d'abord concernant ce fichage, parce que il
oui,
faut
c'est quand même, effectivement tu as raison de revenir sur le sujet qui nous occupe.
Bien sûr, mais je suis désolé, mais D'abord, dans un des signalements, l'intérêt porté à l'actualité. Je suis désolé, alors, on devrait tous être inquiets ici au Grand Forum, puisqu'on épluche l'actualité et on essaye de la décrypter ici même. Donc on serait potentiellement à signaler à côté de ça. Le fait de porter une barbe, mais là aussi, on est dans le deux poids deux mesures. Ça veut dire que un citoyen français type européen, je dis type européen, qui se laisse pousser la barbe, c'est hipster. Et quand c'est un Nord-Africain, c'est une barbe religieuse. Mais je suis désolé, mais où va-t-on dans tout ça? Voilà, c'est aujourd'hui, on voit bien. Ces établissements qui se permettent des choses. Mais pourquoi est-ce qu'ils se permettent ces choses-là? Je vais aller au bout de mon propos, Phil. Pourquoi ils se permettent ces choses-là? Parce que en face, ils n'ont aucune résistance. Ils n'ont personne qui, s'indigne et s'insurge de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un vrai manque d'organisation d'une communauté qui se fait taper dessus du matin au soir. Du matin au soir et qui ne bouge pas une oreille.
Ouais, mais alors, par exemple, Moulam nous dit, les musulmans n'ont jamais été solidaires entre eux depuis plus de 30 ans. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à l'époque de la Seconde Guerre, quand la France de Vichy demandait un fichier sur les juifs. L'histoire se répète, hier les juifs, aujourd'hui les musulmans.
Mais ça, oui, non, mais attends, oui, Christophe, là, moi, ça c'est un discours qu'il faut arrêter de distiller. Je sais, sur les réseaux sociaux, là, ça fait 15 jours que les musulmans sont la cible des médias et des politiques, et ça fait 15 jours que les communautés musulmanes, sur les réseaux sociaux, s'adressent à nous, qui sommes identifiés comme étant des personnes qui sommes engagées sur la question de l'islamophobie, pour nous demander quoi faire, que faire, comment faire. Mais des fois, j'ai envie de vous dire aussi, franchement, je ne veux pas être vulgaire en sortant l'expression que vous avez compris, mais à un moment donné, il faut que chacun se bouge. Il faut que... écoute, c'est pas grave. Sérieusement, il faut à un moment donné que chacun se bouge, parce qu'après, quand nous on fait des manifestations et qu'il y a personne qui est là et que on est 300 personnes et 15 selon la police, ça devient ridicule. Donc au bout d'un moment, il faut que si les communautés musulmanes se sentent concernées par un problème, se sentent stigmatisées, elles peuvent aussi initier des rassemblements et ensuite nous contacter pour nous dire est-ce que vous vous joignez à nous, est-ce que vous pouvez appeler pour nous. Nous, militants de l'islamophobie, on ne peut pas tout faire malheureusement. Il faut arrêter de compter toujours sur nous, on fait ce qu'on peut, mais après on est comme tout le monde, on travaille, on a des enfants à s'occuper, on a une famille, c'est juste pas possible. Ça c'est un discours qui pour moi est vraiment insupportable. Et là en ce moment je vois, tu vois sur les réseaux sociaux, on se fait interpeller toute la journée. Il y a au moins j'ai dû voir au moins 4 ou 5 rassemblements différents qui sont organisés et en fait les gens ils appellent à manifester, ils savent même pas où, ils savent même pas comment, je comprends pas en fait. On attend toujours sur les mêmes personnes pour tout faire, pour porter le poids de tout ce qui est apporté, sauf que là en France on est quand même plus de 6 millions. Si on était 6 millions à pouvoir arrêter de dire « oui, mais on n'est pas solidaires, oui, mais les musulmans, ils restent chez eux, oui, mais les musulmans, nanana, ils ne veulent pas aller participer avec les autres », eh bien, continuer comme ça dans ce discours négatif tout le temps, et puis on verra où est-ce que ça va nous mener.
Je pense. Alors, commentaire qui te répond sur Facebook, plutôt intéressant, c'est Zanouna qui nous dit « c'est à nous d'agir, donc il faut penser déjà à une manière de répondre à cette montée de l'islamophobie. Voilà. Journée de grève pour tous les musulmans, manifestation, boycott commercial pour montrer notre importance en matière économique. » Voilà une bonne réponse éventuelle.
Ouais, mais bien évidemment.
Tout à fait. C'est une bonne solution.
Bonne solution. Et d'ailleurs, je salue un certain Samir Chiki que je ne connais pas, mais qui a entrepris depuis que Zemmour officie sur CNews, il a interpellé directement les clients publicitaires. Il a eu gain de cause avec notamment Nutella, avec la Maïf. Il est en train d'obtenir gain de cause avec 3 marques de voitures qui sont les 3 clients principaux de CNews pour un budget de 1 million d'euros par mois. Donc ça, c'est du vrai, du concret, ça.
Oui, voilà.
Voilà. Abdestem, tu crois ça?
Oui, il faut taper là où ça fait mal.
Au portefeuille.
Taper au portefeuille. Il y a que la thune qui compte. Et dans ces cas-là, il faut pas se priver justement de ce levier-là. Les musulmans sont des consommateurs. À ce titre, ils peuvent faire des choses. On parlait tout à l'heure de ce rédacteur en chef ou rédacteur en chef adjoint qui se permet de libérer sa parole raciste et de jeter au visage des musulmans des injures. Je suis désolé, mais que fait-on? Est-ce qu'on doit continuer à acheter ce journal? Moi, je dis non.
Non, mais c'est clair. Non.
Et ensuite, concernant l'islamophobie, pour aller au bout de mon propos tout à l'heure, on parlait justement de permission de cette université, cette permission et cette invitation à la délation. Voilà, on est dans... Et vous savez, on peut transposer les choses.
Dans les prémices du régime de Vichy.
1940, mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé par de la délation. J'ai mon voisin qui est juif. ça commençait comme ça. Donc faites attention. Et là aussi, on le voit bien. On est dans concernant le terme même islamophobie. Pour certains, ils sont complètement dans le déni. L'islamophobie n'existe pas. Ouais. Et d'autres se donnent le droit d'être islamophobe. Je suis islamophobe. Ouais. Et alors? Ouais. Mais rendez-vous compte d'une chose. Le racisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Et c'est un délit condamnable. Ensuite, lorsque justement, on a des personnes qui interviennent dans des médias pour dénoncer tout ça, vous le voyez bien. Ils sont cloués au pilori. Il y a une police de la pensée. Et tout de suite, lorsque l'on se met à défendre les musulmans, eh ben, on est un radicalisé, un radicaliste, un islamiste, tous les termes qui finissent par "iste". Et là aussi.
C'était un petit peu comme le 11 septembre, lorsque tu contredisais la parole officielle,
t'étais un conspirationniste
antipatriotique.
Comme il n'y a pas si longtemps, hein, Charlie Hebdo, l'attentat de Charlie Hebdo, si t'étais pas Charlie, t'étais, évidemment considéré.
T'étais Koulibaly.
Koulibaly, voilà.
Koulibaly.
Alors, tiens, j'ai un message de notre ami Kaya, Nadir, qui nous dit: bonjour, juste pour vous dire que nos banlieues bougent et que beaucoup de dynamique lance et prépare des rassemblements comme jamais, cela face à l'islamophobie débordante qui a atteint le niveau de non-retour. J'y ai participé avec Bellatar, Mohamed Koh-Lanta et d'autres réseaux à un appel national pour le 27 octobre. Il est temps de saisir cette occasion inédite pour réaliser notre rêve, nous unir, nous dit Nadir Kaya. Nous unir. Est-ce que c'est pas un peu utopique ça?
Non.
Aujourd'hui.
Ah, non.
Il faut le faire.
Bah, en fait, il faut. Mais
oui,
il faut
un d'accord, début. Mais bon. Faut un début. Mais c'est les balbutiements de la résistance pacifique, de l'antiracisme et de l'anti-islamophobie et de l'antisémitisme, de l'anti-homophobie. Vraiment. Là, il faut qu'on descende tous dans la rue. Tous les républicains, tous les progressistes, tous les démocrates qui en ont marre de voir cet état fasciste arriver.
Pardon, je te coupe deux secondes. D'accord. Parce qu'il y a quand même une phrase de Zemmour qui a été extraordinaire hier. À propos des homosexuels, il a déclaré: s'ils veulent avoir des enfants, ils ont qu'à coucher avec des femmes. Alors là,
extraordinaire.
On applaudit.
Bravo.
Bravo.
Bravo Eric. T'es mon champion, toi.
Quoi, je veux dire, le mec, il est payé pour dire des conneries pareilles.
Ouais, c'est clair, ouais.
Mais pour venir à tout ça, Christophe.
Pardon, je pouvais pas m'empêcher.
Oui, ouais, le dernier point que je voulais évoquer, et on le voit bien, ce qui a développé aujourd'hui un sentiment d'indignation, c'est le comportement de cet élu Front National,
Odoul,
lors d'un conseil,
Julien Odoul,
qui justement a interpellé une femme. Quel courage d'interpeller une femme dans une assemblée.
Il avait tout préparé, préparé les caméras, orchestré.
Place,
hein.
Je me mets à la place du gamin.
En même temps, il a l'habitude avec les caméras et les photographes.
Dans un conseil assisté aux instances de la République qui organise la région, et se rendre compte que un élu s'en prend à sa mère. Mais mettez-vous à sa place. Moi, je me suis mis à sa place. Et je n'accepterai pas qu'on parle de cette manière-là à ma mère. Okay. Et je pense qu'aucun d'entre
Faut pas être naïve. L'objectif souhaité par ces diffuseurs de haine, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y en a plusieurs qui pètent les plombs, qui se radicalisent et qui deviennent des terroristes. Et à ce moment-là, ça confirme les théories qu'ils développent depuis de nombreuses années.
Oui, c'est ça.
C'est ça leur objectif. Oui. Et ben, on va leur donner l'inverse. Oh, regarde, quand tu as parlé tout à l'heure de ce fameux questionnaire, quand on parle de la barbe,
tu vas pas faire du Tarek Mami à tousser tout le temps, toi. Hein.
Je t'invite à regarder tous ces fous furieux de terroristes qui nous ont tous entachés et endeuillés. Aucun ne portait la barbe. Plusieurs d'entre eux avaient de la drogue dans leur sang, avaient de l'alcool, avaient fait des choses que
tu ne fais pas, toi, évidemment.
Bah, évidemment. Mais ça y est, je vais me radicaliser à cause de tes histoires là. Ça y est, je suis signalé ou pas?
Oui, bah justement, t'es signalé comme étant l'heure de la pub. Donc désolé.
Alors juste après, je voudrais rebondir sur.
Non, t'iras pas. Voilà, non. C'est comme ça dans le grand forum. Quand il y a Bouriaki, tu peux pas aller jusqu'au bout. C'est comme ça. Il faut s'y habituer. Restez bien avec nous, Faiza, encore quelques minutes, c'est bon pour toi?
Faiza, comment il va ton frère Damien Rieux?
Comment ça? Qu'est-ce que ça t'interpelle, Faiza, comme ça?
Mais parce que Faiza, comment va ton frère Damien Rieux? Il est pas en prison?
Qui, ton frère à toi, tu parles?
Bah non, ton frère.
Celui qui attaque.
Il est pas encore incarcéré, il est même pas passé devant le juge des libertés, je crois.
C'est incroyable.
C'est pas normal.
Ouais. Mon frère Damien, je viendrai te voir en cellule.
Ouais, tu lui apporteras une pomme, éventuellement. Bon, allez tout de suite sur France Maghreb 2 pour la suite du Grand Forum, évidemment.
France Maghreb 2.
Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Faïza Ben Mohamed, encore pendant quelques minutes avec Mounia Feriachi, blogueuse, avec Bouriaki Philippe, avec Abdeslam Itach. Tu faisais référence à Damien Rieu, oui, c'est celui qu'embête Faïza. Et celui qu'embête Faïza, il va avoir affaire à nous, cette espèce de...
Voilà. Mais il va avoir affaire à moi déjà. Pour
déjà,
commencer.
Premièrement, exactement.
S'il s'en sort.
Oui. Parce que attention, quand on a affaire à Faïza, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, ouais. Non, mais, c'est
par...
chaud.
Par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas sous-estimer avec le frère Damien. Parce que,
mais arrête de l'appeler le frère.
Mais si, parce que justement, c'est ce qu'on fait nous sur son Twitter. Quand on l'interpelle, on dit mon frère et tout, on te pardonne. Il devient dingue, ça le rend hystérique, le loulou. Non, mais sérieusement, Damien et ses copains, là, les danseuses identitaires. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des signalements en masse. Ça, oui, ils t'attaquent à 100, 150. Et moi, tu vois, par exemple, je suis bloqué jusqu'au 19 novembre. Facebook, si tu m'entends, j'ai rien à voir avec ça, s'il te plaît. Et moi, je suis candidat, j'aimerais bien pouvoir faire mes lives. Voilà. Et je suis,
T'as qu'à appeler ton copain Damien, il va te débloquer, tu vas voir.
Bah, justement.
Ouais. Alors, la question du jour. Je rappelle que ce lundi, le personnel de l'université de Cergy a reçu par mail un formulaire à remplir pour dénoncer les prétendus signes de radicalisation. Selon vous, ces appels à la dénonciation menacent-ils l'ensemble des musulmans? Vous êtes 94% à le penser sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter. Sur Twitter, le Grand Forum FM2. Abdel nous appelle au 01 40 33 9000. Salut Abdel.
Salut Christophe. Bon, moi, si je t'appelle, c'est que déjà, vous avez un grave problème dans la communauté musulmane. Et je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais que moi, mes parents sont musulmans, mes sœurs, ma sœur a le voile, ma mère a le voile. Moi, je pratique pas. Et tu sais que j'aime appeler les radios quand j'entends des gens critiquer l'Algérie ou critiquer les musulmans. Et je m'auto-combat parce que j'aime pas l'injustice. Et souvent, j'ai affaire à des gens qui sont de la communauté juive et des pieds noirs. Et je trouve ça tout à fait normal qu'ils veulent débattre avec moi et qu'ils veulent cartonner, entre guillemets, les musulmans et les pays arabes. Mais tu sais qui, et des fois, quand je débat, j'espère avoir un soutien. Et tu sais, le soutien, comment je l'ai? J'ai des Algériens, des musulmans, qui montent et qui se mettent contre moi. Et à un moment, j'entends les pieds noirs qui débattent avec moi, parce qu'ils disent qu'ils sont pieds noirs ou juifs. Ils jubilent, en fait, tu vois. Et souvent, ça m'arrive, comme Anas, que tu as vu sur RMC, c'est deux musulmans qui se sont mis contre lui. Alors, il faut m'expliquer ce qui se passe dans cette communauté. Si vous donnez les bâtons pour vous faire battre, Christophe, faut que tu lances un appel, parce que c'est pas la première fois que j'entends des musulmans. Encore une fois, j'ai entendu un musulman qui s'est retourné contre cette dame, qui a dit que c'était bien fait pour elle, et qu'en Algérie, elle serait fait lapider si elle aurait osé venir avec un voile dans un parlement. Il faut m'expliquer ce qui se passe dans votre communauté. Je vous lance un appel, parce que chaque fois que je monte pour défendre la communauté musulmane, je rencontre des musulmans qui me cartonnent la gueule, qui viennent me contredire, qui viennent m'insulter et qui insultent souvent l'Algérie. J'ai même un enregistrement que je ne ferai pas écouter parce qu'ils croient que j'ai pas le droit. On voit un Algérien qui dit je suis musulman et qui cartonne l'Algérie, qui cartonne les musulmans. Christophe, et je m'adresse à la communauté musulmane. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour réagir comme ça?
Merci Abdel. Bon, Faïza, t'as envie de lui répondre?
Bah, déjà, c'est qui le vous? C'est qui le chez vous? Est-ce qu'on est en train de contester le fait que ce monsieur il se fasse contredire sur son Facebook, ou je sais pas sur quel réseau il s'exprime, ou via quel canal d'ailleurs? Mais enfin, je sais pas, il faut se calmer, quoi. Nous appeler nous pour nous demander des explications sur des gens qui le contredisent, parce qu'il a bien dit, mais qui me contredisent. On est quand même en démocratie. Le propre d'une démocratie, c'est justement de pouvoir être contredit par des débats et par des confrontations d'idées. Je comprends pas trop l'objet de l'appel, mais bon, voilà.
C'est fait. Merci Abdel, en tout cas. 01 40 33 9000, évidemment, pour prendre part. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions. Comment on fait pour mettre fin à ce climat nauséabond qui nous occupe. Pardon ?
Non.
Philippe.
Si, je suis sérieux.
De quoi ?
Jean-Pierre Alcabache,
oui,
sur Twitter. Le voile, la radicalisation, l'intégration, les musulmans coincés entre la loi de la République et la loi de Dieu, les racines des conflits actuels. Jacques Attali, mon invité, demain vient présenter l'année des dupes à Alger 1943. Jacques Attali répond : non, malheureusement, je ne viendrai plus sur CNews pour le moment.
Ah, merci Jacques. Très bien. Bah voilà, Jacques Attali non plus, n'y va plus.
Voilà.
Après Valérie Trierweiler. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une femme de la France insoumise,
oui,
Fiona.
Oui, mais après attention, le groupe Canal, vous vous souvenez de l'affaire Itélé au moment où Morandini avait été embauché,
oui,
sur la chaîne. Il y avait eu des démissions en masse, des boycotts de journalistes, leur équipe, elle a été complètement décimée par des grèves et des démissions à l'appel. Ils n'ont pas sourcillé, ils n'ont pas. Morandini est toujours là 2 ou 3 ans plus tard. Hein. Il ne faut pas non plus trop se leurrer. Je pense que tant que ça ne tape pas vraiment au porte-monnaie sur la question justement des annonceurs publicitaires qui peuvent peser dans la balance parce que c'est un apport financier dont la chaîne ne peut pas se passer. Je pense que vraiment il y a que ça. Après que Valérie Trierweiler ou Jacques Attali n'aillent plus sur la chaîne, je pense qu'ils s'en tamponnent, hein, ces news.
C'est ce que je disais tout à l'heure, Faïza, ça va clarifier le débat. D'un côté, on aura ceux qui maintenant sont complètement décomplexés, et puis de l'autre, tu auras un vrai front républicain démocrate, et nous verrons bien in fine qui gagnera sur les idées et sur les valeurs. Je pense.
Non, mais là, tu vois, sur la question du boycott de Zemmour, par exemple, et sur la question de toute l'environnement islamophobe là en ce moment qui nous entoure avec ce contexte qui est complètement hystérique en ce moment, c'est sur ces dernières semaines, est-ce qu'on va se contenter aujourd'hui de dire je boycotte Zemmour, je boycotte la publicité de Nutella qui va boycotter les émissions de Zemmour, ou on va faire une manifestation, on va aller au Trocadéro, on va crier qu'on n'est pas content, stop à l'islamophobie, au revoir l'islamophobie, c'est mal. Non, à un moment donné on peut être dans la contestation, mais t'as un moment où il faut passer dans la construction. Le problème de cette communauté, c'est que malheureusement pour l'instant, il y a très très peu de personnes qui proposent quelque chose pour.
Faïza,
elle a raison. Faïza, elle a raison.
Oui, non mais bien. Non.
Oui.
C'est pas moi qui va dire que Faïza n'a pas raison. Je dis juste qu'il n'y a pas un seul chemin, qu'il y a plusieurs chemins et qu'on doit chacun trouver le sien. Et ben, on va converger. C'est les balbutiements de cette histoire que nous allons
construire. Ça fait 20 ans que j'entends ça.
Mais ça fait 20 ans, qu'on n'avait pas France Maghreb 2 comme force de pouvoir de liberté d'expression. Non, donc,
les mesures qu'on peut initier sur un boycott économique, sur une journée noire dans les commerces, machin, les musulmans n'achètent plus, on va voir combien ça pèse. C'est sûr qu'économiquement ça va peser, c'est comme sur la question des gilets jaunes, ça avait paralysé l'économie tous les samedis, notamment sur la fin de l'année dernière. Ouais. C'est sûr que c'est quelque chose qui pèse. Mais après, est-ce qu'on a proposé, moi je sais que c'est quelque chose qui me semble absolument nécessaire et vital, c'est un plan national de lutte contre l'islamophobie. Je suis désolée, il nous faut quelque chose qui soit destiné aux médias, destiné à la sphère politique.
Non, aux médias, ça ne fonctionnera pas. Faïza, tu vois bien qu'aujourd'hui, les médias sont sous la pression de la Macronie qui veut la bipolarité. Bien sûr, c'est la vérité. Ils veulent la bipolarité entre eux et le Rassemblement National, et au soir du premier tour, on n'aura pas le choix que pour éviter le chaos,
attends,
de voter la Macronie. Donc maintenant, il faut plusieurs.
Non, mais on n'aura pas le choix, Philippe, parce que c'est nous qui ne voulons pas nous donner le choix aussi. Je suis désolée, ça fait 40 ans qu'on nous brandit cette menace. Attention, l'Alliance républicaine, il faut tous s'allier contre Marine Le Pen, avant c'était son père et tout. Mais moi, je m'en tamponne de m'allier avec tout le monde maintenant. Je suis désolée.
Bien sûr.
C'est comme ça, si j'ai un choix entre Emmanuel Macron qui prend dans son gouvernement des islamophobes notoires, et je vais citer à l'intérieur Jean-Michel Blanquer,
oui.
Pour moi, je vais.
Tu peux rajouter le maire, tu peux rajouter Castaner.
Tu peux rajouter aussi Macron. Hein.
Un Blanquer qui soit dans le gouvernement de Le Pen ou dans le gouvernement de Macron, je suis désolée, je ne vois pas c'est quoi la différence. Donc, moment donné, ce chantage aux élections à nous dire attention, on va voter, quoi, il faut absolument voter, faire une alliance républicaine pour pas que Le Pen elle passe et tout. Franchement, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, il faudra que cette France elle se brûle avec l'extrême droite au pouvoir pour comprendre ce qu'elle a fait, ce qu'elle a construit pendant des décennies, parce que pour l'instant, c'est tous ces politiques qui nous ont dit, qui nous ont fait croire, à ceux qui voulaient bien le croire, qu'ils étaient un barrage républicain contre le racisme, contre la xénophobie, contre blablabla et les idées rétrogrades et blablabla. Et c'est à cause de eux qu'aujourd'hui on est dans ce gouffre, parce que finalement ils ont eu les voix, notamment des communautés immigrées, des communautés musulmanes. Ça fait 30 ans qu'ils ont les voix de nos parents, de nos grands-parents. Maintenant, ils vont
se. Hein, si, il y a du retour, mais attends, laisse parler les gens, Philippe.
Ouais. Mais non, mais comment ça?
Laisse parler les gens. Il y a Mounia et l'Abdestam qui peuvent pas en placer une.
Mais attends, mais j'ai pas fini mon développement, je me suis arrêté parce que. Mais je suis désolé, je me suis arrêté parce que Faïza, c'est super intéressant ce qu'elle dit. En plus, on dit la même chose. Je suis en train de dire que ce gouvernement et ces médias qui sont à la solde de ce gouvernement, à la solde des firmes écolocides qu'on a mis au pouvoir il y a 2 ans, ne souhaitent qu'une chose, la bipolarité, et nous obliger sauf que ça n'existera plus. Et maintenant, moi j'en ai marre des discours pessimistes en disant ouais mais non, les gens ils sont pas solidaires, etc. Il y a des gens, il y a des initiatives, oui. Et d'ailleurs t'en es une des précurseuses, qui sont en train d'être mis en place. Il va y avoir des flops au début parce que les gens, ils ont du mal à, lorsque tu dois redémarrer la machine et qui est endormie depuis 40 ans, c'est toujours compliqué, c'est normal. Mais maintenant, ça suffit, stop, allons-y, on va commencer par la première des choses, et j'espère que France Maghreb 2 va jouer le jeu sur une campagne d'inscription massive sur les listes électorales, parce qu'il y a que comme ça qu'ils comprendront qu'on existe. Si vous votez pas, si vous exprimez pas, vous n'existez pas, et continuons à vous taper dessus.
Alors déjà, il y a une chose à dire. Elle a raison, Faïza, quand elle dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui font,
Elle a tout le temps raison, Faïza.
Pas tout le temps, mais là, sur ça, oui. Non, mais en tout cas, elle a raison quand il dit qu'il faut de la construction. Et effectivement, il y a des gens qui sont en train de construire. Et moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin que ça. Quand il y a des problèmes comme ça, parce que là, la situation, elle est en train de s'aggraver, mais on passe notre vie à réagir. On réagit soit sur les réseaux sociaux, ou alors on réagit avec des rassemblements, des manifestations spontanées. En fait, on réagit à chaque fois de manière désorganisée. Donc il faut deux choses. Il faut réagir peu, parce que quand on voit les puissants, eux, quand ils réagissent peu, mais ils réagissent bien et ils ont une réponse forte. Donc nous, faut qu'on s'inspire d'eux, en fait. Et il y a une deuxième chose, il faut surtout pas s'arrêter de construire ce qu'on est en train de faire. Faut continuer et justement faut mettre plus d'énergie à la construction qu'on est déjà en train de faire, parce qu'il y a des gens qui construisent, ils sont pas toujours très suivis, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'ils continuent, en fait. C'est faut surtout pas s'arrêter de construire, et faut arrêter de réagir tout le temps, de gaspiller son énergie à réagir tout le temps, et au final on réagit tellement qu'on a plus d'énergie pour construire.
Monsieur Itache, avant d'accueillir Émir qui nous appelle de Lyon, on nous attend 01 40 39 000, et avant de libérer Faïza.
Alors moi je suis pour que l'on puisse construire tous ensemble à hauteur des capacités des uns et des autres. Vous avez des personnes qui sont identifiées, qui du coup ont des followers et qui peuvent porter la parole. D'autres en tant que militants ou ne serait-ce que par leur présence dans certains rassemblements.
Ouais.
C'est aussi ça le début. Mais tout à l'heure j'entendais parler un petit peu Philippe, à la façon de Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Mais je tiens à lui dire que d'abord, ça s'est fait bien avant d'abord de se retrouver avec un système bicéphale où il n'y aurait que deux partis qui existent. Je tiens à vous rappeler que François Mitterrand, à l'époque, avait permis à Jean-Marie Le Pen de développer le Front National, parce que son seul but, c'était de niveler les voix de droite entre le Front National et la droite.
Ouais.
Donc Emmanuel Macron, il n'a pas inventé l'eau chaude, et qu'il y a bien longtemps que les courants politiques de gauche et de droite jouent avec ça, et ils agitent le chiffon de l'extrémisme. Ensuite, si les écologistes sont pas capables d'être au deuxième tour, c'est peut-être parce qu'ils ont mal bossé ou qu'ils ont pas un programme intéressant.
Non, c'est pas ça. C'est que nous, on n'avait pas tous les médias qui faisaient tous les jours des heures et des heures sur Macron. La solution.
Tu vas mouchoir.
Non, mais pas du tout. C'est pas grave. Moi, je vois que certains.
On fait une place à Émir.
Bien sûr, viens.
Faïza, à un moment donné, ça suffit. On va te libérer parce que je crois que tu dois y aller.
Les personnes de ces parties-là qui acceptent que leur patron.
On peut dire au revoir à Faïza ou ça?
Faïza, non, on veut pas. Elle reste avec nous. Salut, Faïza.
Voilà. Faïza, merci beaucoup en tout cas, et bon après-midi. Merci en tout cas d'être venu le peu de temps que nous a accordé aujourd'hui. Merci beaucoup, Faïza.
Merci, Faïza.
Salut tout le monde, à la semaine prochaine.
À la semaine pro, évidemment.
Inch'Allah.
Pour une émission entière, Faïza, attention.
Oui.
Faut pas s'habituer à ce genre de truc, attention.
Non, t'inquiète.
Salut, ma Faïza, bientôt. Émir est avec nous, nous appelle de Lyon, s'il est encore là, je sais pas d'ailleurs. Salut.
Toujours là.
Oui, bravo. Toujours là. Comment ça va, le Lyonnais?
Écoutez, ça va très bien, je vous remercie.
Bon, alors on t'écoute, Émir, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben bonjour à tous, je prends rarement la parole, je vous écoute souvent, et là je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne un peu. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vous apportez toutes les solutions, toutes les clés en fait dans votre discussion, c'est-à-dire faire partie des décisionnaires, en fait des gens qui décident en France, donc par la voie électorale, donc faire partie des corps de l'Assemblée, de ces choses comme ça, devenir faire partie des élus, et c'est ce qu'il faut en fait pour avancer sur le sujet, parce qu'on parlera toujours à notre place. Et sur l'idée de construire, en fait, malheureusement beaucoup ne le voient pas, c'est pas assez peut-être relayé, et de toute façon pas du tout par les médias. Mais ça se construit en France. En France, il y a des constructions. Vous avez invité, c'était la semaine dernière, Raleb Benchir.
Oui.
Et ce monsieur qu'a fait récemment, le 17 septembre, il a fait une conférence internationale à Paris pour la paix et la solidarité.
Et pourquoi on n'a pas trop entendu ça à la télé, sauf dans le cadre d'une polémique avec monsieur, vous savez, Mohamed Abdelkarim El-Aïssa, qui est un ancien ministre de la Justice et maintenant qui fait partie, donc, secrétaire général de la Ligue mondiale de l'Islam. Donc, on entend cette polémique, mais on n'entend pas parler, en fait, des progrès, on n'entend pas parler à la télé, on n'essaye pas d'inventer du fait. Moi, quand j'entends Nadine Morano, qui dit clairement,
en
fait, c'était sur CNews ou sur CNews, je ne sais pas,
ouais,
qui dit le problème, c'est l'islam.
Ouais.
Vous voulez quoi de plus? Quand madame, une fois de plus, c'est Nadine Morano.
Emir, je suis désolé, on va devoir couper parce qu'il y a un souci sur la ligne. Bon, ça vient pas de chez toi, ça vient de chez nous. Hein. En ce moment, il y a des soucis à la radio, standard, tout ça, ça part en live, bref. Ben, en tout cas, voilà, on a beaucoup de mal à t'entendre, mais en tout cas, on a bien compris l'essentiel, mon cher Emir. Merci, en tout cas, d'être passé à la radio. C'est pas du tout de la censure, mon cher Emir, mais c'est vraiment un problème de ligne, tu verras.
Ok.
À très bientôt, Emir, merci de ton appel.
Au revoir.
À bientôt. Bah oui, non, mais j'y peux rien, moi, qu'est-ce qui se passe dans ce truc, là? Pourquoi ça grésille, là? C'est depuis que Bouriaki est arrivé, c'est le bordel dans cette radio. Voilà, faut le dire en même temps. Comment?
Je suis une minorité, c'est pour ça.
Minorité de quoi?
Ben, vous le savez bien. Vous le savez bien, monsieur Fro. Vous le savez bien?
Bien visible.
Oui. Bien visible.
Oui.
Voilà.
C'est vrai.
Bon,
encore une fois, discriminé.
On va accueillir, un jeune homme. C'est un jeune homme, hein, qui est avec nous aujourd'hui.
Ah non, il n'y a pas un jeune homme, vraiment.
Il s'appelle Ismaël. Bonjour Ismaël.
Vas-y,
bonjour, dis bonjour Ismaël.
Bonjour,
comment ça va?
Je suis pas tout seul, du coup, je suis venu avec une amie qui s'appelle Maj Delil aussi.
Ah, Maj Delil, bonjour à vous tous, à vous deux, pardon. Vous allez nous parler d'un événement qui va se passer ce samedi. C'est la marche des coloniales. Alors, qu'est-ce qu'une marche des coloniales que vous organisez donc ce samedi, Ismaël?
Donc, il s'agit, ouais, d'une balade des coloniales. L'idée, c'est de brasser un peu un concept qui s'appelle l'éducation populaire. L'idée, donc, c'est agir pour comprendre ensemble. Et donc, comprendre ensemble pour agir ensemble. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi? Concrètement, c'est on va débaptiser des noms de rues qui rendent hommage à l'histoire coloniale française.
D'accord.
Pour, en fin de compte, se faire justice nous-mêmes et remplacer ces mêmes noms de rues par ceux de nos héros, ceux des héros des luttes de l'immigration et des quartiers populaires. Mais
ah
aussi,
ouais.
Donc oui, c'est un beau projet.
Ah, je m'en vais.
Et il y a aussi l'idée de rendre aussi hommage à des personnes qui se sont fait tuer par la police. On rendra aussi hommage à nos Chibaniers et nos Chibanias. En tout cas, je vous invite à consulter l'événement qu'on fera tourner sur la page Facebook. Hein?
Et l'événement, c'est le
Balade des coloniales.
Oui,
sur la page du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires.
Donc c'est ce samedi à 14h.
Ouais.
Le rendez-vous, c'est place Saint-Bernard, face à l'église Saint-Bernard, ouais. au lieu de la lutte des sans-papiers.
Absolument.
Voilà.
Ouais. Et mais dites donc, c'est un sacré projet, ça, les enfants. Vraiment, Ismaël, bravo. Hein. Donc concrètement, à un titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut en dire là? Débaptiser des noms de rues, c'est-à-dire?
Alors très concrètement, il y a l'idée en fait aussi de coller avec l'actu. J'entendais votre débat tout à l'heure, ça parlait islamophobie.
Oui.
Et donc concrètement, on prend un nom de rue qui rend hommage à un colon.
D'accord.
Et là, ce qu'on va faire donc ce samedi, on va rendre hommage à une rue et donc du coup, on va débaptiser cette rue et mettre à la place le nom rue de la lutte pour contre l'islamophobie et pour l'égalité des droits. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'avoir un temps de parole, de discours où en réalité il suffit pas juste de faire l'acte mais d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait et pourquoi surtout on décide de dégager aussi un affreux de la République coloniale.
Abdeslam, ça te parle ça?
Oui, ça me parle. Alors d'abord, l'un des premiers combats, c'est d'empêcher de débaptiser les rues Maurice-Audin, parce qu'on a souvent des villes communistes qui basculent à droite, et la lubie de certains maires de droite, c'est d'enlever Maurice-Audin, qui était un résistant communiste. Communiste, il n'est pas important qu'il soit communiste. C'est l'action qu'il a menée pendant tout ce temps-là. Mais en effet, enlever des
rappeler l'action.
Enlever
de
des colbert et autres, oui, moi je suis plutôt pour, et restaurer la mémoire de gens qui sont battus. Je pense à notamment à la veille du 17 octobre, à Fatima Bédar, qui est la plus jeune martyre du 17 octobre 1961. Il sera important d'avoir justement des rues Fatima Bédar pour se rappeler que c'était une collégienne qui a été jetée à la Seine et qui a été retrouvée avec son cartable. On l'a identifiée grâce à son cartable, c'est dire à quel point elle était décomposée.
C'est prévu ça, Ismaël?
Oui. Oui. Il y aura une rue du coup qui sera rebaptisée rue du 17 octobre 61.
Ouais.
L'objectif aussi de tout cet événement, c'est de montrer que en fait il y a une continuité coloniale et que elle s'exprime aujourd'hui à travers les violences policières, l'islamophobie, le fait d'effacer la mémoire des luttes de l'immigration. Donc c'est aussi l'objet de la rue qu'on va rebaptiser rue des Chibéniers et des Chibénias, parce que faut leur rendre hommage pour toutes les luttes qu'ils ont portées, et ça a été les premiers à lutter ici. Donc c'est aussi voilà, l'intérêt c'est aussi de d'être dans la continuité de cette histoire et de rappeler qu'on est héritier voilà de cette histoire.
Donc, j'ai une question à vous poser.
Il n'y aura pas de rue Philippe Boyacki, hein. Je suis désolé.
Pas encore.
Non.
Toujours la postérité, c'est ça le problème. Non, la question que je vous pose, moi j'approuve complètement ce que vous faites et je sais que c'est de manière pacifique en plus que vous le faites.
Merci.
Et vous n'allez pas décrocher des trucs, vous allez mettre quelque chose par-dessus qu'on pourra retirer après. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas peur du coup que dans ce climat très islamophobe qui est en train de gagner les consciences, que les identitaires, les racistes notoires décomplexés qu'on entend partout ne saisissent pas cette balle au rebond pour dire, vous voyez, le grand remplacement c'est là, et on nous impose maintenant des choses, des chocs culturels, civilisationnels, et puis on est en train
de... La peur n'évite pas le danger.
Voilà. Évidemment.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre?
Je pense qu'ils ont plutôt tout à perdre à faire ça, parce qu'en réalité, ces noms, ils existent encore aujourd'hui, et je pense parce que la majorité des gens qui les voient et qui habitent dans ces rues, y compris ces quartiers populaires, ils savent pas qui c'est. Et en réalité, si tout le monde savait qui c'est, tout à l'heure je disais c'est affreux, mais je pourrais être beaucoup plus vulgaire, qui sont ces personnalités en réalité, je pense que tout le monde aurait envie de les dégager. La réalité aujourd'hui, c'est que on est genoux à terre, qu'on en prend partout dans la gueule, à la télé, à la radio, par les discours politiques, et que si on a souvent cette phrase qu'on dit s'unir pour ne pas subir, c'est un bon moyen de se mettre en mouvement et de relever la tête ensemble.
Je rebondis, s'unir pour ne pas subir. Est-ce que du coup, dans votre collectif ou votre groupe, est-ce qu'il y a des personnes aussi pour faire vivre la mémoire coloniale des Dom-Tom, des Antilles et de l'esclavagisme qui a été violent?
Vas-y, un sueur, mais...
Mais du coup, là, sur cette question spécifiquement, enfin, nous, comme je l'ai dit, on a une rue qui va être nommée rue des sans-papiers. Effectivement, il y aura des collectifs de sans-papiers. Qui sont très au fait aussi de cette histoire et qui sont aussi héritiers quelque part de cette histoire. Juste pour du coup revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, il y a aussi un enjeu à pas accepter d'être silencieux par ces mouvements d'extrême droite. En quel honneur ils auraient le droit d'occuper l'espace public, d'imposer leurs thèmes et leur idéologie? On est tout autant citoyens et on estime qu'il y a des débats qui doivent être portés sur la place publique, et aujourd'hui il y a urgence parce que ce qui se passe actuellement fait peur. Et donc c'est important de se rappeler de l'histoire de la France et de rappeler les moments douloureux.
Vous demandez votre âge tous les deux là?
Alors moi j'ai 31 ans.
Et toi?
24.
Est-ce que vous êtes inscrit sur les sectorales?
Bien sûr.
Oui.
Toi aussi?
Vous êtes de la police?
Ouais, voilà, bientôt.
Parce que du coup, notre droit de nous exprimer politiquement, il est quoi, conditionné
non,
au fait d'être inscrit sur
non,
la liste électorale.
Voilà.
Bravo, bien joué.
Allez-y.
Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, l'action politique sur le terrain, moi, j'applaudis à deux mains et j'ai 47 ans, donc ce que vous faites, on l'a fait. On l'a fait à une époque où je te jure, il était pas très bon d'être bronzé. Abdeslam peut en témoigner. Dans les années 90, on n'allait pas à Sass, on n'allait pas à Jussieu, on n'allait pas à Bon Sergent, on n'allait pas à Saint-Mich. Donc, mais j'entends tout à fait ce que tu dis, mais aussi l'action politique, elle doit se concrétiser dans les urnes, sinon c'est pas possible. Parce que les fachos, tu peux mettre l'élection à minuit sous la neige en déambulateur, ils y vont voter. Voilà.
Alors Ismaël, est-ce qu'on peut rappeler l'événement Facebook, hein, évidemment, et puis l'endroit où ça va se passer ce samedi?
Donc c'est la balade des coloniales, ça aura lieu ce samedi à 14h, place
Saint-Bernard.
Ah oui, dans un lieu mythique.
Devant l'église,
et vraiment, on compte sur vous tous et vous toutes parce que c'est une belle initiative.
J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit vis-à-vis des listes électorales. Ouais. Moi, je pose déjà une question ouverte, mais j'aimerais bien développer avant d'avoir une réponse. La question ouverte, c'est quoi? C'est pour qui on vote alors si on inscrit sur liste électorale? Nous, ce qu'on pense au Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, c'est que on n'a pas de maison encore aujourd'hui. On a l'habitude de dire, en rigolant, on a une tente quechua trouée. Et ben nous, ce qu'on veut, c'est construire notre maison. Notre maison, en fait, des enfants d'immigrés, des personnes issues de l'immigration et qui veulent lutter contre le racisme. Ensuite, on pourra jouer un rapport de force. Parce que s'il faut voter pour la gauche aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. beaucoup à faire pour ne pas être traité comme une serpillière.
Bon, on rappelle l'événement, donc ce samedi.
Je peux lui répondre, non, il m'a posé une question. Bah si, il m'a posé une question quand même.
Bon, attends, écoute, je me débarrasse de la pub.
Mais vraiment, on est 30 secondes.
Non, 10 secondes. La pub. C'est incroyable, on peut pas se faire respecter dans cette émission, à tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct en ce mercredi après-midi avec Philippe Bouriaki, avec Mounia Feriachi, avec Abdeslam Itache et avec Ismaël et également. Et comment s'appelle la jeune fille?
Majodine,
c'est ça. Alors ne bougez pas parce que nous allons d'abord accueillir un témoignage. Donc la personne en question souhaite rester anonyme, donc forcément on respecte évidemment son choix. Juste pour contextualiser un petit peu la chose, ça se passe du côté de Creil. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une sortie scolaire qui a été suspendue puisque deux mamans accompagnaient des enfants portaient le hijab, portaient le voile, et elles devaient aller visiter une caserne de pompiers, et un officier pompier donc a refusé à ce qu'elles rentrent. Du coup, la sortie a été annulée. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Magab 2 et merci en tout cas de nous accorder quelques minutes. Vous êtes, pour ne rien trahir, vous êtes une des deux mamans concernées et une des deux mamans qui avait posé problème pour cet officier de pompier.
Oui, c'est ça.
Alors racontez-nous ce qui s'est passé, chère madame, la sortie scolaire qui était prévue, comment ça s'est passé, dites-nous.
En fait, on était premiers.
Parlez bien en face de votre téléphone, madame, s'il vous plaît. Parlez bien en face de votre téléphone, on vous perd sinon.
D'accord. En fait, on était premiers, c'était nous, l'école de ma fille, était les premiers qui rentraient dedans et qui voudraient rentrer dans le casin de pompiers. Et l'un de pompiers qui vient de juste arriver, qui vient de vous aussi, lui aussi, qui veut rentrer, il a dit oui, d'accord. Il a commencé, je peux dire, il a commencé mal, il a dit on voudrait réduire les visites de l'école. Premièrement, deuxième, on est en laïcité ici et on est dans le plein Vigipirate. Je peux pas laisser cette dame là. Je porte le djellab. On peut pas laisser cette dame là partir avec vous dans le casin. J'ai rien dit. La maîtresse de ma fille, elle a dit pour nous, il y a personne qui a signalé d'abord. Il a dit on a déjà signalé. Et que la personne qui porte cette tenue-là, il ne peut pas rentrer. La personne qui porte que foulard, il peut rentrer. La maîtresse de ma fille, elle a dit, pour nous, on peut voir le visage de la maman, et c'est bon pour nous. Si on fait ça et on dit tout le monde enlever votre voile, on peut pas. Il y a personne qui nous accompagne avec nous. Mais le pompier, il a dit non. Mais moi, je sais pas tout ça. Mais moi, je peux pas rentrer. Vous pouvez pas rentrer avec cette tenue là. Je dis ok, je rentre pas. J'ai rien dit parce que c'est mon image. Ma fille, elle me regarde. Elle était traumatisée. Pourquoi ça passe comme ça? Mais je dis ok, d'accord, pour votre école, moi j'habite pas très loin de Kazen, je reviens pour accompagner à l'école, jusqu'à l'école, mais si je peux pas rentrer, c'est bon pour moi, je vais pas rentrer. Le pompier qui est, lui il est rentré, l'autre pompier qui est venu, et il a dit pareil à la maîtresse de ma fille, il a dit, et par contre je vous laisse rentrer dans le Kazen, parce que la dame elle peut pas rentrer. Mon collègue, il l'a déjà dit. Et je dis, à ce moment-là, je dis, oui, je vous inquiétez pas, je vais pas rentrer. Et moi, j'ai rentré à la maison et ma fille, elle est rentrée avec sa maîtresse et tout. J'ai rien dit. Et c'était, je rends compte après que j'étais pas que seule maman qui est pas le doigt.
Oui, vous étiez deux, oui.
Oui.
Très bien. Merci en tout cas, madame, pour votre témoignage, en tout cas, et pour ce qui s'est passé, nous avoir raconté ce qui s'est passé donc du côté de Creil. Merci beaucoup, madame.
Ouais. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Oui, parce que c'est vrai que bon, c'est extrêmement choquant et ça peut, on peut le comprendre en tout cas. Interpellé, cette femme a accepté de nous accorder quelques minutes et on voit qu'elle a quelques difficultés à s'exprimer, donc ça a rien de l'embêter davantage. Philippe Bouriaki, Abdeslam Itache, Mounia Feriachi, juste pour conclure avec Ismaël et Majdoudine, c'est ça?
Majdoulil.
Majdoulil. Bah, dites donc, vous n'avez pas un prénom facile non plus. Ouais, hein. Ouais. Ah, j'ai envie de vous dire, moi. Hein. Bon, alors rappelons quand même ce qui nous importe. Ce qui nous importe, évidemment, c'est ce samedi. Ouais, dis-leur à tes parents. Ce samedi à 14h, en face de la...
Sur la place de l'église Saint-Bernard.
Voilà, oui. Sur la place de l'église Saint-Bernard. On rappelle le principe, c'est de débaptiser des noms de rue pour les rebaptiser avec des noms qui notamment ont un lien peut-être avec les violences policières,
oui,
avec des luttes,
Ismaël Abdelkader, voilà, Gaël Camara.
Par exemple. Voilà. Oui.
Il y aura une rue aussi qui sera renommée rue de la lutte contre l'islamophobie et pour l'égalité des droits. Et là, avec le dernier témoignage qu'on a eu, on voit l'urgence qu'il y a à agir sur cette question-là, parce qu'il y a des personnes dont les droits fondamentaux sont violés au quotidien et c'est plus acceptable.
On rappelle l'événement Facebook, Ismaël ?
Donc sur la page du FUQP Paris banlieue.
Du quoi, du quoi on est un peu vieux, nous, hein, alors, on entend pas bien.
Donc je vais déchiffrer des lettres.
Voilà, c'est ça, si tu veux.
Donc c'est le FUQP Paris banlieue. Et donc du coup l'événement Facebook c'est Balade décoloniale.
Balade décoloniale, on vous donne tous rendez-vous ce samedi à 14h. Bravo en tout cas pour l'initiative.
Merci.
Et puis on compte sur vous pour nous faire relayer un petit peu ça sur Facebook avec des lives peut-être, hein.
Ah bah bien sûr, il y aura des lives, il y aura une vidéo qui suivra.
Il y aura de la musique.
Et on attend encore des retours presse.
Très bien. Bah parfait, en tout cas vous serez venu en parler sur France Malheur 2 et informer nos auditeurs qui j'espère seront fidèles au poste. Merci beaucoup à
tous. Merci pour l'invitation.
Et à très bientôt.
Merci.
À très bientôt. Et Ismaël. Bon, si nous parlions un peu de ce qui va se passer demain, parce qu'il va se passer quelque chose du côté d'Orly, paraît-il. Le 17 octobre, évidemment, 1961, c'est une date importante. Pour ne pas oublier ce qui s'est passé le 17 octobre 61, il y a un événement qui est à ton initiative, cher Philippe.
À mon initiative, je suis un des initiateurs. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et donc, il y a un collectif qui s'est créé, qui est le collectif Orly Devoir de Mémoire du 17 octobre 1961, qui existe aussi sous le nom de Orly Devoir de Mémoire de l'autre 8 mai 45.
Ouais.
Et donc on a interpellé tous les Orlésiens et les Orlésiennes, et si vous me permettez, je vais vous lire le courrier qu'on a adressé à la population orlésienne. Donc c'est un appel pour la reconnaissance officielle de la tragédie du 17 octobre 1961 à Paris. Madame, monsieur, il y a 58 ans, le préfet de police de la Seine, Maurice Papon, avec l'accord du gouvernement, imposa un couvre-feu visant exclusivement tous les Français musulmans d'Algérie. Ce couvre-feu entraîna une réaction pacifique des Algériens sous la forme d'une manifestation dans les rues de Paris. Au soir du mardi 17 octobre 1961, ils furent près de 30 000 hommes, femmes et enfants à défiler pacifiquement sur les grandes artères de la capitale pour revendiquer leur droit à l'égalité et défendre l'indépendance de l'Algérie. La répression policière de cette protestation non violente est une des pages les plus sombres de notre histoire. Longtemps dissimulée à l'opinion et désormais établie par les historiens, elle fut féroce. 11 000 arrestations, plus d'une centaine d'assassinats, dont de nombreux manifestants noyés dans la Seine, tués par balles, frappés à mort. Le temps est venu d'une reconnaissance officielle de cette tragédie dont la mémoire est aussi bien française qu'algérienne. Les victimes oubliées du 17 octobre 1961 travaillaient, habitaient et vivaient en France. Nous leur devons cette justice élémentaire, celle du souvenir. Reconnaître les crimes du 17 octobre 1961, c'est aussi ouvrir les pages d'une histoire apaisée entre nos deux rives de la Méditerranée. À l'orée de cette commémoration, seule la vérité est gage de réconciliation. Le collectif Orly, Devoir de Mémoire du 17 octobre 1961, organise un rassemblement citoyen pacifique avec dépôt de gerbes, se concluant sur le thé de l'amitié le 17 octobre 2019, 2 place Gassonviens, anciennement place du Fer à Cheval, sous le parvis du centre commercial Leclerc, à 18h. Je tiens avant tout à dire aussi qu'il y avait des Marocains et des Tunisiens lors de ce défilé pacifique le 17 octobre 1961 et que eux aussi ont été victimes de la répression policière.
Ouais.
Et je voudrais remercier les services de l'État et monsieur le préfet de nous avoir permis ce rassemblement. Je suis un peu amer et en colère, sans faire de politique politicienne, parce que nous avions premièrement l'année dernière demandé à la municipalité d'organiser cette commémoration. On nous a répondu qu'on comprenait nos motivations, mais qu'en l'état, il n'était pas question de changer le calendrier mémoriel mis en place par l'ancien maire. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est que demain, au vu de la météo, nous avons sollicité la municipalité pour le prêt et mise à disposition. On était prêt à les chercher. On a la formation pour les installer de Barnum sans jupe latérale pour pouvoir permettre la circulation des gens, mais surtout pour pouvoir permettre aux uns et aux autres s'abriter. On a reçu une fin de non-recevoir sans aucune justificatif. Dieu est grand. Merci infiniment. On a quelqu'un qui nous prête 4 Barnum pour demain, et donc j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent venir communier en paix et en fraternité. J'insiste bien sur là-dessus. On est nombreux à être franco autre chose. Moi, pour ma part, je suis franco-algérien, et donc moi, je choisis pas entre mon père et ma mère, mais je veux que ceux ou celles qui ont fait des choses répréhensibles, et je rappelle quand même que c'était le préfet Papon, hein, c'est pas n'importe qui, il a été quand même un des grands architectes de la déportation et de la mise à mort de pas mal de nos compatriotes de confession juive, que c'est ce préfet que nous condamnons et que nous voulons pas réparation mais juste reconnaissance. Et si ça se conclut par le thé de l'amitié et de la fraternité, c'est pas pour rien. On est vraiment un lien, un pont entre ces deux rives. Nous pensons que la France a un enjeu énorme avec l'Afrique et la Méditerranée, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et qu'il faut que ce pont soit scellé par juste la reconnaissance qui avait été amorcée en tout cas par François Hollande, et qui pendant la campagne présidentielle, le président Emmanuel Macron, le candidat qui est devenu président, avait parlé de cette fameuse passe sombre qui était la colonisation, qui était un crime contre l'humanité. Donc maintenant, aux paroles, Monsieur le Président, nous vous demandons des actes, et je sais que malheureusement demain il ne pourra pas être là parce qu'on lui a fait part de notre invitation. Il sera au sommet européen à Bruxelles.
Oui, bon. Il sera là ou pas?
Il sera là, comme il était là l'année dernière. Donc,
faudra abriter ton brushing. Hein.
Ouais, non, j'ai pas besoin. Mais j'ai écrit mon nouveau discours. Le but, c'était pas de refaire la même chose. Donc, je me suis plongé dans le témoignage d'un policier ce soir-là. Donc, il est bien de voir aussi de l'autre côté comment ça se passait et le remords qui ronge cette personne aujourd'hui. Donc,
17 octobre 61, on en parle demain en lit à 18h. Rappelle-nous l'adresse.
C'est 2 places Gasson-Viens, anciennement place du Fer à Cheval, juste devant le centre commercial.
Oh, les adresses de bidon, vous avez en lit un truc de ouf.
Bah, Gasson-Viens, ça a été notre maire pendant 44 ans.
Ah oui, d'accord.
Un homme extraordinaire, mais qui n'avait pas mis à l'agenda mémoriel cette date. Et je suis surpris que Madame Jeannodet, qui est maire depuis 11 ans, ne décide pas de prendre cette initiative pour son compte. Mais en tout cas, on l'a invité à venir demain communier avec nous.
Zapping, c'est parti. Et il y a de quoi commenter. On va se régaler. Alors là, il y a tout ce qu'il faut. Un bon casting avec du Blanquer, avec du Yves Triard, avec du Bruno Le Maire. Oh là là, on va se régaler.
Ici, on prend 100 millions d'Africains.
D'un remplacement de population.
Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça
veut dire. Non, très franchement, je vois un barbu en djellaba.
La réémigration, c'est le départ des immigrés.
Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible?
Donner une bonne dose de cheval.
Votre pote, votre calme, mais je me sens très bien.
Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons.
Alors, pour commencer ce zapping, messieurs, dames, merci d'être avec nous d'abord sur France Maghreb 2 à l'écoute du Grand Forum. Direction Creil, on en a parlé il y a quelques minutes, une sortie scolaire pour aller visiter une caserne de pompiers. C'est terminé par un refus d'un officier. Parce que parmi les accompagnantes, 2 femmes portaient le voile, évidemment, toujours et encore.
Les élèves de l'école Louis Pergaud à Creil, dans l'Oise, devaient visiter lundi dernier la caserne de pompiers de la ville. Seulement, une fois sur place, un officier refuse l'accès à 2 accompagnatrices qui entraînent l'annulation de la visite. La raison, elles portaient un voile. Le pompier pensait alors bien faire en appliquant la loi, a-t-il expliqué.
C'est vraiment un malentendu, parce que je connais bien cet officier de sapeurs-pompiers. C'est certainement pas un raciste, c'est pas un extrémiste non plus. Donc il n'y a aucune connotation politique. Lui, il a cru bien faire. Je crois que le législateur a intérêt à peut-être apporter un certain nombre de précisions au texte.
L'une des accompagnatrices a affirmé avoir reçu un appel des pompiers le soir même pour présenter leurs excuses. Elle explique par ailleurs qu'outre le voile qu'elle portait ce jour-là, elle était vêtue d'une veste et d'un pantalon.
Voilà, c'est passé à Creil encore et toujours, donc peut-être qu'il y a un problème au niveau de la législation, hein, pour le coup, et peut-être de réexpliquer un petit peu les lois. que certains font mine de ne pas connaître.
Ouais.
Hein, Mounia, c'est ça?
Moi, je n'irai pas jusque à faire un procès d'intention sur ces pompiers-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissent pas la loi. Peut-être qu'ils sont racistes aussi, mais la seule chose qui est, il y a une chose qui est sûre, c'est que le racisme, l'islamophobie ambiante qu'il y a partout, ça fait qu'il y a des gens qui font des confusions inadmissibles, et ça prête des confusions, parce qu'en fait, la laïcité en France, c'est la loi de 1905.
Ouais.
C'est pas et les lois de 2004 et 2010 qui sont fondamentalement sexistes et islamophobes, elles contredisent la loi de 1905, mais même si elle contredit cette loi-là, elle n'interdit pas aux mamans qui accompagnent les enfants en sortie scolaire d'être neutres en matière d'expression religieuse. Donc il y a une grosse confusion en fait. Le problème, c'est que ces lois, non seulement elles sont islamophobes et sexistes, mais en plus elles prêtent à confusion. Ça infiltre l'islamophobie dans l'esprit de tout le monde.
Autre chose dans le zapping, rien ne va plus entre les pompiers et la police. Ils manifestaient hier à Paris et se sont fait gazer simplement par leurs copains de tous les jours, ce qui est quand même plus grave.
17h, place de la Nation. La manifestation des sapeurs-pompiers doit se terminer, mais eux n'ont pas l'air de vouloir rentrer chez eux tout de suite. Les forces de l'ordre qui encadrent la manifestation ont beau les prévenir, la tension ne retombe pas. Les soldats du feu finissent par forcer le barrage. La situation dégénère. Des images rares, de pompiers jetant des projectiles sur les forces de l'ordre.
Regardez à quoi on est réduit. Aujourd'hui, on était des milliers de pompiers. On est venus des quatre coins de la France. On a fait quelque chose de pacifiste. On a été calme. Ça a fait du bruit et de la fumée, ça s'est arrêté là. Et là, on nous demande d'évacuer. Très bien, on est des bons garçons. On veut regagner nos bus. On nous interdit de les regagner. On nous gage, on nous met des coups, on nous insulte. Ça ne devrait même pas exister. Là, regardez, les CRS, la police, on bosse avec eux. Dans la vie de tous les jours, c'est nos copains.
Ici, l'un d'entre eux est blessé au visage. Quelques minutes plus tôt, les forces de l'ordre avaient déjà fait usage des canons à eau, car les pompiers tentaient de sortir du trajet déclaré en préfecture, provoquant la colère des soldats du feu.
Moi, j'ai 30 ans de métier, c'est un scandale. Tu peux me filmer, ça me dérange pas. Il a des ordres, mais c'est pas mon endroit de commander. On a appelé à travailler ensemble.
Une manifestation particulièrement tendue. Preuve d'un profond malaise au sein de la profession.
Depuis des années, on dénonce un manque criant d'effectifs et on ne nous écoute pas. Et là, on arrive à une situation où c'est vraiment, vraiment très compliqué. On est juste bon, en fait, à faire des voix pour nos hommes politiques quand ils viennent poser des médailles sur les cercueils. Mais nous, au jour le jour, on n'a rien du tout, aucune reconnaissance.
Ce défilé fait suite à un mouvement de grève lancé en juin. Les syndicats réclament notamment une revalorisation de leurs primes à 28% du salaire de base, contre 19% actuellement. Aujourd'hui, ils se disent surmenés. Le nombre d'interventions augmente chaque année pour des missions qui ne relèvent pas toujours de leur cœur de métier.
Les pompiers, souvent, ils travaillent plus de 2000 heures, payés 1607 heures, et les conditions de travail se sont dégradées. C'est une des motivations. On a aussi des avantages ou quelques spécificités pour les retraites dont on nous promet qu'elles vont passer par pâte et profit dans le nouveau système. Et ce qu'on voit, c'est que tous les signaux sont au rouge.
Depuis quelques années, ils doivent faire face à un autre problème. Les agressions physiques et verbales lors de leurs interventions. Elles ont triplé en seulement 10 ans. Depuis le 1er janvier, les autorités ont recensé 1274 agressions à l'encontre des pompiers et 312 blessés.
C'est quand même incroyable qu'on agresse des pompiers, je veux dire, j'ai jamais compris quoi.
Incompréhensible.
Mais le cap là, le cap a été franchi quand même. On voit ces gens qui sont au quotidien à travailler ensemble, s'affronter dans les rues de Paris. L'image elle est forte quand même.
Ouais, mais moi ça m'étonne pas en fait, parce que le truc c'est que ça fait longtemps qu'on dit que la police c'est le bras armé de l'État. que la police, en fait, à partir du moment où elle reçoit des ordres du ministère de l'Intérieur, et ben, il n'y a pas de copinage qui tienne. Parce que là, les pompiers, ils expliquent, ah, ben, c'est nos copains. Bah, ben, là, en fait, ils se rendent compte que c'est pas leurs copains. D'un côté, il y a des policiers qui sont surarmés, puis d'un côté, on a des pompiers qui ne sont pas du tout armés. Parce que déjà, leur mission n'est pas la même. Et leur rôle, en fait, les deux font partie des institutions, mais leur rôle n'est pas le même.
Abdeslam, c'est quand même un cap qui a été franchi, là?
Non, non, mais en effet, les pompiers qui justement réclament un peu plus de droits et se font gazer par ceux qui les voient tous les jours lorsqu'ils arrivent sur un accident de la route ou sur un drame, peu importe. Oui, en effet, c'est une société qui marche sur la tête, ça c'est certain.
Philippe, un petit mot.
Bon, écoute, je vais me faire charrier par Abdeslam, mais les revendications des pompiers, c'était quoi? Hormis la considération, le paiement des heures supplémentaires et surtout qu'on ne touche pas au statut du pompier, comme tu sais, c'est un des fins de... Oui, mais évidemment, oui, d'accord. Mais j'ai l'impression que tu coupes jamais Abdeslam, par contre, c'est incroyable ça.
Oh là là.
Non,
mais le statut des pompiers.
Je t'enverrai les podcasts.
Effectivement. Ouais, non, mais je suis un petit peu parano. Ouais. Il est que si le gouvernement cède sur ce statut, il est un petit peu embêté pour la réforme générale des retraites. Et donc, ils passeront en force quoi qu'il arrive. Et on a bien vu là, les soldats du feu, des femmes et des hommes qui risquent leur vie, c'est nos anges gardiens. Pour nous, on les gaze, on leur tire dessus à coups de flashball, on leur balance des camions lanceurs d'eau. C'est juste inadmissible. Mais ça prouve la dureté de ce gouvernement.
C'est la suite logique, hein.
Ouais, oui, complètement.
C'est la suite logique parce qu'en fait, ils ont commencé par les plus vulnérables et maintenant ils s'attaquent aux pompiers. Voilà.
Ouais.
Vous êtes bien sur France Maghreb 2, tout va bien. Hein, tout le monde est de bonne foi, il n'y a pas de problème.
Mais évidemment, c'est inadmissible qu'on puisse agresser ou insulter nos pompiers, nos ambulanciers, etc. Inadmissible.
Écoutez-moi cette feuille. Elle respire des questions. Le quiz arrive, elle va poindre le bout de son nez, tout simplement. Alors je ne sais pas si on aura le temps de terminer notre zapping, j'avais quand même du Le Drian, du Bruno Le Maire, du Jean-Michel Blanquer et du Yves Tréa. Quand même un petit sort tout ça, non?
Ouais. Elle est où, cette poubelle?
Le zapping dans un instant, peut-être suite, mais surtout le quiz entre Abdeslam Itache, Philippe Bourriaki et Mounia qui va venir un petit peu vous embêter, hein, dans un instant. Hein, ne bougez pas.
On va voir.
L'octogone, restez avec nous sur France Magazine 2, c'est le grand forum. Bourriaki, il est là.
Il est là.
Mounia Bourriaki, elle est là. Et Abdeslam Itache est là, il s'échauffe. Le temps de la pub, à tout de suite. Bienvenue sur France Magazine 2 dans le grand forum.
France Maghreb 2.
Bourriaki, Philippe, Abdeslam Itache et Mounia Feriachi sont avec nous aujourd'hui. Et le moment tant attendu, j'attends depuis longtemps, vous savez que les deux se charrient depuis quelques temps sur en interne dans l'équipe du LGF. Les deux se cherchent, se menacent même, allons dire. Allons-y.
Tu vas loin.
Alors en tout cas, ils sont là face à face. Entre deux, évidemment, Mounia, qui n'entend pas se laisser faire aussi, qui entend perturber ce quiz. Attention, je rappelle les règles, elles sont strictes. Et je serai intransigeant, n'ayant évidemment aucune préférence et faisant preuve d'une neutralité exemplaire.
Les paroles.
Il n'y a pas de paroles, ce sont des faits. Et ainsi soit-il, je rappelle les règles, je pose ma question et celui qui répond à la fin de ma question, je lui enlève un point. On est d'accord.
Merci. Parfait.
Mes questions ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes, mesdames, messieurs, le 16 octobre. Êtes-vous prêts?
Stéphane Monaco.
Je vous souhaite bonne chance. Première question. Quelle reine de France a été guillotinée en 1793?
Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette.
Ah mince.
Magnifique. Abdeslam. Marie-Antoinette. Elle a été guillotinée. Exactement.
En même temps que son mari, je crois.
C'était. Oui, alors en tout cas, ça s'est passé à Paris et c'était à midi 15 précisément.
Ouais.
Midi 15, hein. Voilà. Premier point signé Abdeslam Itache. C'est un truc de ouf, oui.
Comme t'as fini le truc, mais qu'il y avait de la reine.
Deuxième question. Quel produit narcotique est utilisé pour la première fois au cours d'une intervention chirurgicale à la clinique de Boston en 1846?
L'opium. Morphine.
Non.
L'opium.
Non.
L'héroïne.
La cocaïne.
Non.
Le cannabis.
Non.
Le chanvre.
Non.
C'est pas la pénicilline.
Oh, les nuls.
Quoi? Attends.
Quoi? Non, du tout. C'était 1846.
La codéine.
Non. C'est un produit qui sent pas bon et c'est un produit qu'on utilisait pour endormir les gens.
L'éther.
L'éther. Bonne réponse.
Ah, je connais.
Ouais, j'ai un peu donné d'indice quand même. Attention.
Ah ouais.
Bah oui. Un partout. Attention, troisième question. Ils sont chauds. Boyaki, Itache et Mounir aussi. Quel président égyptien élu le 15 octobre 1970 succède à Gamal Abdel Nasser?
Anwar el-Sadat.
Anwar el-Sadat.
Yes.
Deux. Mounir, fais attention, ils sont dangereux.
Ah ouais, non mais moi en plus tu poses des questions l'histoire, c'est vraiment pas mon truc.
Alors tiens, puisque tu dis ça, ça va être un peu plus près de nous. Quatrième question, 2-1 pour Itache. Quel chanteur sort de prison en 2007 de manière conditionnelle après 4 ans de prison, après 4 ans de détention, soit la moitié de sa peine?
Bertrand Cantat.
Bertrand Cantat est une excellente réponse.
Yes, yes.
De partout. Attention. Attention, la dernière question, elle est là. Et elle est pas facile. Je cherche un chanteur, mais également auteur français, animateur de télé, parolier de Dalida, pour la petite info, né en 1945.
Pascal Sevran.
Pascal Sevran.
Yes.
Il a eu.
Yes.
Il a gagné. La chance aux chansons. Il a gagné. K.O. debout, monsieur Boyaki.
Archi pas, pas du tout.
Ah, ça y est.
Pas du tout.
Tu l'as eu.
Ah, c'est bon, fouette.
Il avait révisé.
Faut être un bon perdant.
Évidemment. Bon, voilà. Mounia, ça va? Tu vas bien? T'es toujours vivante?
Oui.
Rassure-nous, ça va? Bon.
Oui, ça va.
Ouh, ce fut chaud. Ce fut très chaud. Quelle heure il est? Ah, bah, on a le temps.
Je repars invaincu, Philippe.
On a le temps de se refaire encore un petit coup de zapping, alors? Tiens, le ministre des Affaires étrangères, il était l'invité de Bourdin ce matin. L'interrogation forte qui nous est posée. Est-ce que l'Europe va continuer à subir? C'est ce qu'a déclaré ce matin chez nos confrères de BFM TV, le ministre des Affaires étrangères, monsieur?
Drian.
Le Drian.
Je voudrais dire ici une chose.
Rien à voir avec Emmanuel Macron, quand même.
C'est que, lorsqu'il y a eu la crise qui a suivi l'attaque des Twin Towers à New York en 2001, nous étions au rendez-vous. Nous avons participé à l'offensive initiée par les États-Unis pour la propre sécurité des États-Unis en Afghanistan. Nous étions là. Il y a eu des morts français. Nous étions solidaires. Il n'y avait pas de trouble dans le lien transatlantique. Aujourd'hui, il y en a un. Et c'était 11 000 kilomètres.
Les États-Unis sont plus solidaires.
Donc, il y a une question qui est posée. Il y a un trouble dans la situation et dans le lien transatlantique. Il faut maintenant l'examiner. Le bon schéma, le bon périmètre pour l'examiner, c'est de réunir la coalition. Mais l'interrogation forte qui nous est posée à nous Européens après cette deuxième alerte, c'est est-ce que l'Europe va continuer à subir?
Est-ce que l'Europe va continuer à subir, mon cher Boyaki?
Mais est-ce que l'Europe va continuer à semer de ce qui la regarde pas? Par ricochet, on subit.
C'est ça.
Oui. Mounia, t'as l'air d'accord.
Ouais, parce que.
Oui, Mounia, vas-y, je t'en prie.
Les migrations, en fait, qui arrivent en Europe, c'est un lien complètement direct avec les guerres impérialistes. Il n'y a pas de solution magique, quoi, en fait, à ce truc-là.
Non, mais il y a une action, une réaction, et lorsqu'on va déstabiliser une région du monde, il ne faut pas s'interroger sur, justement, mais je suis désolé, mais quand on déstabilise un pays comme la Libye par exemple, et que c'est open bar au niveau des armes, et qu'on fournit des armes à des milices qui justement ensuite se déplacent partout en Afrique et dans le Moyen-Orient, je suis désolé, mais ça n'est que le retour logique de
retour de la médaille, quoi. Ouais.
Il faut arrêter de dire subir, hein, parce que subir quoi? Parce que en fait, là, toutes les études ont prouvé que l'immigration n'a jamais posé de vrais, véritables problèmes à l'Europe. Justement, au contraire, ils ont même pu exploiter de plein de travailleurs. Donc, ouais. À un moment donné, subir quoi? C'est pas l'Europe qui subit. Ce sont les personnes qui migrent vers l'Europe qui subissent. En réalité, il y a qu'elles qui subissent.
Bon, alors tiens, en matière de subir, Bruno Le Maire était l'invité d'Europe 1 ce matin. le ministre de l'économie. La question lui a été posée, est-ce que Macron doit intervenir dans cette apparemment climat qui se détériore au sein même de la majorité, avec ceux qui sont pour l'interdiction du voile et ceux qui, comme Édouard Philippe d'ailleurs, a rappelé tout le monde à l'ordre. Écoutez ce qu'en pense Bruno Le Maire.
Bon, je pense qu'il est sorti du silence sur un certain nombre de sujets.
Sur la laïcité.
En tout cas, il est sorti sur.
On a raté le discours alors.
La question de la radicalisation islamiste très fort. Et je pense que c'était bienvenu. Je pense que c'était nécessaire. Ensuite, je crois que Édouard Philippe a raison de souligner qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de loi. En revanche, je voudrais dire avec beaucoup de conviction, parce que ça fait des années que je défends cette idée-là, que ce qui est en jeu, c'est notre culture française. Et que plutôt que d'une loi, il faut que chacun d'entre nous, chaque citoyen, réaffirme cette culture française. Et la culture française, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ça veut dire, le voile islamique serait une menace pour la culture française,
Le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française. Je le dis, que je le pense profondément. Je pense que l'avenir souhaitable de la culture et de la société française, c'est la stricte égalité entre les femmes et les hommes. C'est le visage découvert, c'est le visage avec lequel vous parlez, avec lequel vous discutez, avec lequel vous vous présentez. C'est le refus de tout signe qui pourrait marquer une différence de niveau entre les femmes et les hommes.
On comprend votre position, Bruno Le Maire, mais comment faire du en même temps, pardonnez-moi, il n'y a pas de loi et en même temps vous dites c'est pas possible.
Je pense qu'il n'y a pas de
en même temps. Est-ce que ce n'est pas le président qui fait du en même temps sur la laïcité?
La culture française, c'est un ensemble qui est extraordinairement complexe, mais dans lequel il y a des lignes de force qui ne sont pas négociable. L'égalité femme-homme n'est pas négociable. La liberté d'expression n'est pas négociable. Le respect de notre histoire, de notre mémoire, tout cela, ce n'est pas négociable.
Bruno Le Maire, ce matin, chez Europe 1.
Je suis content que frère Bruno vienne demain à Orly pour le 17 octobre. Il a parlé de l'histoire, j'ai pas bien compris.
Oui.
Bon. Non, c'était une bonne idée.
Mais c'est du foutage de gueule sur l'égalité homme-femme, parce qu'en fait, quand on silencie la parole de toutes ces femmes qui portent le voile, ou même des femmes qui ne le portent pas, parce que c'est marrant, hein, parce que le harcèlement sexuel à l'Assemblée nationale et dans toutes les institutions françaises, c'est la norme. Donc, ça serait bien en fait qu'ils s'occupent de ces choses-là avant de parler d'égalité homme-femme.
Non. En tout cas, Blanquer va un peu dans la même lignée, dit que le voile, c'est pas souhaitable également. C'est ce qu'avait dit Blanquer.
Ce qui n'est pas souhaitable, en fait, c'est les personnes qui parlent à la place des femmes, en fait.
Oui, ça devient pénible, c'est... ça.
C'est... Voilà.
Oh, c'est dommage, on avait du Yves Tréhard, mais tant pis, on l'écoutera plus tard, ou pas d'ailleurs.
Ouais, non, vu ce qu'il avait dit,
oui,
c'est pas terrible.
C'est chaud quand même, hein. Ce mec officie quand même sur LCI, quand même, hein.
Ouais.
Voilà. Vous savez que depuis que Zemmour officie sur CNews, ça a fait monter les audiences. En tout cas pour la première.
Ah oui,
ils sont passés deuxième chaîne d'info, évidemment, tout le monde a regardé.
Mais c'est pour ça que nous, en fait, faut vraiment qu'on boycotte massivement.
Ok, Mounia, ok.
Non, mais en fait, je sais qu'il y a des gens qui regardent parce qu'ils adhèrent au discours de Zemmour, mais il y a aussi les curieux. Et je pense que c'est ça qui fait augmenter.
De toute façon, s'il y a du buzz, vous allez le savoir sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas.
Ouais.
Bon, merci, Mounia.
Bruno Le Maire, c'est pas celui qui avait critiqué Macron avant de le rejoindre?
Si!
D'accord, non, parce que je.
Il a fait du en même temps.
Comme d'origine, par exemple.
Comme d'origine aussi, absolument, oui. Il y en a eu plein d'autres, hein.
Comme Bayrou aussi.
En même temps, quand on te sert la gamelle, tu la manges.
Je te retrouve l'enregistrement de Bayrou.
Quand on sert la gamelle, tu la manges, c'est comme ça que ça fonctionne.
Bon, et la gamelle, c'est dans une heure, à peu près vers 19h. Merci beaucoup, Mounia Frayachi. Merci, Abdest Amitash, pour ta victoire. Bravo. Face à Boyaki, que tu as laminé.
Je reste l'invaincu.
Tu restes l'invaincu, absolument. Philippe, c'est pas encore pour ce soir. Voilà, la victoire. Ça devient quand même long, hein, cette histoire. Merci à tous les trois. Rendez-vous demain avec Sofiane Akhtari, avec Yasser Louati et avec Khaled Simohan qui nous rejoint, et je suis bien content d'ailleurs qu'ils nous rejoignent demain entre 16h et 18h. On va parler justement d'actualité internationale, de géopolitique avec les trois. On va se régaler à chaque jour. Eh bien, une nouvelle émission, à chaque jour c'est surprise, et à chaque jour un ton nouveau et différent sur France Maghreb 2. C'est l'information autrement, tous les jours entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. Bonne soirée. Et sur la radio Ensemble, toute génération, il est 18h, l'heure du rappel de l'actualité de ce mercredi soir avec Sophie Terrence pour le journal. Bonsoir Sophie.
Bonsoir à tous. Sommes-nous proches d'un accord pour le Brexit? Vous avez sans doute l'impression qu'on se pose régulièrement la question, mais cette fois pourrait être la bonne. Londres et Bruxelles n'ont jamais été aussi proches du divorce à l'amiable. Emmanuel Macron met en garde contre les amalgames qui pourraient mener à la guerre civile. Le chef de l'État joue la prudence sur la polémique autour du port du voile. C'est la journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et le saviez-vous, les Français jettent 29 kilos de nourriture par an. Et puis, en plus de flasher votre vitesse, les radars pourraient bientôt flasher un éventuel défaut d'assurance. Pour la première fois depuis près d'un an, la possibilité de voir le Brexit se concrétiser est réelle. Le Royaume-Uni et la Commission européenne semblent en bonne voie pour trouver un accord susceptible d'être adopté par le Parlement britannique. Et malgré tout, un nouveau report pourrait être proposé, comme nous l'explique Patrick Martin, Jeunier, les spécialistes des questions européennes.
De toute façon, à supposer même qu'il y ait un accord, le Premier ministre irlandais, M. Leo Varadkar, a clairement dit que même s'il avait un projet d'accord qui était formalisé dans un projet de traité qui est censé sortir de cette réunion d'aujourd'hui, de toute façon, pour formaliser les différents points techniques et concrétiser cet accord politique, il faudrait, quoi qu'il en soit, un report de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, c'est-à-dire au moins un report jusqu'au mois de janvier, ou peut-être moins si possible. Il va falloir, sur le plan technique, finaliser l'accord politique qui éventuellement sortira aujourd'hui.
Des propos accueillis au téléphone de Boris Karlamov. Le Brexit, il en est aussi question aujourd'hui à Toulouse. C'est à l'occasion d'un sommet franco-allemand qui s'est tenu toute la journée dans la ville rose. Autre dossier sensible évoqué, la crise en Syrie. Et puis la polémique autour du port du voile. Emmanuel Macron a mis en garde contre un amalgame entre immigration, radicalisation et laïcité. Amalgame qui pourrait, je cite, conduire à la guerre civile. Réaction après qu'une femme voilée ait été prise à partie par un responsable du Rassemblement National lors d'une réunion du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Le verdict de la cour d'assises de Limoges, la mère de la petite Serena, dite bébé du coffre, est condamnée à 5 ans de prison ferme. Le parquet avait requis au moins 10 ans. La femme est accusée d'avoir élevé sa fille pendant 23 mois dans le coffre d'une voiture, lui causant des infirmités aujourd'hui irréversibles. C'est un coup de filet majeur. La police britannique annonce que 327 personnes ont été arrêtées dans 38 pays. Ces arrestations ont lieu dans le cadre d'une enquête sur un site de vidéos pédophiles. Dans le reste de l'actualité, c'est la journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. En France, chaque habitant jette en moyenne 30 kilos de nourriture à la poubelle chaque année. Alors de plus en plus de communes se mobilisent à travers des opérations anti-gaspi, impliquant directement les habitants. À Amiens, 60 familles vont participer dans les prochaines semaines au défi Zéro Gaspille. Objectif, changer les gestes du quotidien pour moins gaspiller grâce à l'association En Savoir Plus. Gianna Miladi, chargée de communication.
Favoriser du coup la préparation de gamelles pour le lendemain, manger le midi, les restes de la veille. Et puis sur aussi l'achat. Donc ça peut être par exemple pour des gens de préparer à l'avance leur menu de la semaine avant d'aller faire les courses. Donc pour acheter vraiment juste ce dont ils ont besoin. Pour d'autres foyers, ça va tout simplement être se mettre à cuisiner plus plutôt que d'acheter du tout préparé qui sera peut-être trop important en quantité.
Et l'an dernier, en 5 mois, les familles participantes ont économisé au total 2 tonnes de déchets. Ce sera une journée noire le 5 décembre prochain. Pas moins de 8 organisations appellent à une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Vous le savez, assurer sa voiture est obligatoire. Pourtant, selon l'Observatoire national de la sécurité routière, les automobilistes de France seraient environ 700 000 à rouler dans des véhicules sans aucune assurance. Et ça peut coûter cher aux fautifs en cas d'accident. Leur responsabilité est alors engagée. Simon Ami, Le Figaro révèle que l'État va se lancer dans la prévention par le moyen des radars.
Oui, dans un premier temps en tout cas, avant d'envisager une verbalisation automatique. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, recoupement tout simple entre la photo de la plaque d'immatriculation prise quand on se fait flasher et le tout récent fichier national des véhicules assurés. Avec ça, en plus de l'amende pour laquelle il a été flashé, le propriétaire en défaut d'assurance recevra dans un premier temps une simple injonction à régulariser. Il y a deux raisons à cette campagne. D'abord, vous l'avez dit, en cas d'accident, ça peut revenir très cher aux responsables en cas de blessure, de dégâts s'il n'est pas assuré. Mais ça coûte cher aussi à l'État. 120 millions d'euros avancés rien que l'an dernier par le fonds de garantie pour pallier les défauts d'assurance, plus de 25 000 dossiers.
Une phase préventive qui ne durera que quelques mois avant la mise en place d'une amende plutôt salée, 750 euros. Et puis la photo fait le tour du web, celle du photographe chinois Yu Qingbao qui a reçu le prestigieux prix du Wildlife Photographer of the Year parmi 50 000 clichés. Sur l'image, un combat entre un renard du Tibet et une marmotte d'Himalaya. L'expression des deux animaux est particulièrement impressionnante. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Bonne soirée à tous.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.